Vous êtes sur RTL.
Votre journal avec Jérôme Chapuis. Bonjour Jérôme.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Les enquêteurs ont des doutes sur les premières déclarations de la passagère du chauffard de Lorient.
Elle assure ne pas savoir où se trouve le jeune homme toujours en fuite. Les policiers s'interrogent sur d'éventuelles complicités. Nous serons sur place. 7 ans ferme requis contre Patrick Balkany lors de son procès pour corruption. Autant que pour des crimes de sang, s'emporte son avocat. Vous entendrez Maître Dupont-Moretti. Et puis les tensions au Moyen-Orient. Washington accuse cette nuit l'Iran d'être directement impliqué dans le sabotage de plusieurs navires. Vidéo à l'appui. À
deux fois le temps d'ici 6h30.
Le temps qui va se dégrader dans l'après-midi à la Charité-sur-Loire dans la Nièvre avec des averses orageuses. Il y est prévu 23 degrés.
RTL Matin.
La garde à vue de la passagère du chauffard de Lorient a été prolongée hier soir.
Âgée de 21 ans, elle continue d'être interrogée 24 heures après son arrestation. Elle a sonné mercredi soir chez les habitants de la banlieue de Lorient et leur a demandé d'appeler la police. Vincent Serrano, vous suivez l'enquête sur place. On en sait plus sur son profil. Quel est-il ?
Cette jeune fille de 21 ans est employée dans un magasin de prêt-à-porter du centre-ville de Lorient. Décrite par ses collègues comme une fille sans histoire et de nature discrète. L'une de ses amies proches évoque aussi une relation tumultueuse de 2 ans avec son compagnon, le chauffard, qu'elle a quitté il y a quelques semaines avant d'ajouter « Je suis sûre qu'elle était sous son emprise ». Elle raconte que Kylian la suivait partout, qu'il était possessif et très jaloux. Devant les enquêteurs, Gaëlle est apparue fatiguée, stressée au moment de livrer sa version des faits. Elle raconte qu'après l'accident, elle serait allée se cacher en forêt avec le chauffard quelques heures seulement avant qu'il ne parte sans rien lui dire. Elle l'a donc répété à plusieurs reprises. Elle ne sait pas où se trouve le jeune homme de 20 ans toujours en fuite. Une version qui ne convainc pas les policiers qui pensent encore à d'éventuelles complicités. Poursuivie en tout cas pour non-assistance à personne en danger, Gaëlle encourt aujourd'hui une peine de 7 ans d'emprisonnement.
Vincent Serrano à Lorient pour RTL.
Patrick Balkany risque très gros confirmation hier après le réquisitoire lors de son procès pour corruption et blanchiment.
Le procureur demande 7 ans de prison ferme et une incarcération immédiate, 4 ans pour son épouse Isabelle. Place maintenant aux plaidoiries des avocats. Celui de Patrick Balkany, Maître Dupont-Moretti, estime ses réquisitions totalement disproportionnées.
Vous savez, j'ai vu depuis que je suis avocat des hommes condamnés à moins que ça pour des viols et même pour des crimes de sang. Quand il aura pris une raclée judiciaire, parce que vous savez ce que je pense du procès, il va prendre une raclée fiscale. Il est ruiné, ça tout le monde le sait parce que c'est une réalité. Bon, écoutez, au bout d'un moment, la justice au pied du mur de l'exemple, ça a ses limites. 4 ans pour avoir fraudé, c'est déjà incroyable. Et 7 ans, une semaine après, pour avoir planqué le pognon de la fraude fiscale dont il n'est pas dit, je le répète ici, qu'il s'agit d'argent public. On requiert aujourd'hui contre cet homme, qui est peut-être aujourd'hui l'incarnation du mal absolu dans cette France qui devient puritaine, on requiert aujourd'hui contre lui ce que parfois on ne requiert pas dans les crimes de sang.
Éric Dupont-Moretti, propos recueillis par Cindy Hubert pour RTL.
Un brusque poussée de fièvre à l'entrée du Golfe Persique. Les États-Unis accusent l'Iran d'avoir provoqué l'explosion de 4 navires. On y revient juste après ça sur RTL.
RTL. RTL Matin.
Julien Cellier.
6h05, la suite de votre journal sur RTL. Ce sont donc des images assez stupéfiantes que le Pentagone a diffusées cette nuit.
Quelques heures après l'attaque de 4 navires, dont 3 pétroliers en mer d'Oman, les Américains ont rendu public une vidéo. On y voit une embarcation légère, bord à bord, avec un pétrolier, des hommes s'affairent, apparemment en train de récupérer des explosifs pour faire disparaître des traces. Selon Washington, il s'agit de gardiens de la révolution, les paramilitaires placés directement sous les ordres des durs du régime iranien. Le secrétaire américain la défense Mike Pompeo a formulé tout à l'heure des accusations sans détour.
Le gouvernement des États-Unis estime que la République islamique d'Iran est responsable des attaques survenues dans le golfe d'Oman. C'est la plus récente d'une série d'attaques fomentées par la République islamique d'Iran et ses affiliés contre les intérêts de l'Amérique et de ses alliés. Prises dans leur ensemble, ces attaques non provoquées représentent une menace manifeste pour la paix et la sécurité internationale.
Mike Pompeo, affirmation incendiaire, réplique l'Iran qui rejette cette version. Les tensions ont provoqué une hausse de 2% des cours du pétrole hier soir à New York.
RTL est partenaire des 24 heures du Mans qui débute demain.
La plus grande course automobile du monde se déroule, il faut le rappeler, sur un circuit qui n'est pas permanent. Les 62 bolides engagés dans la 87e édition vont emprunter des routes départementales qui sont fermées et qui seront fermées exceptionnellement à la circulation. Alors les riverains s'organisent depuis quelques jours. Frédéric Veil, vous êtes allé à leur rencontre pour RTL.
D'ordinaire, la ligne droite des Hunaudières, c'est ça. Mais pendant les 24 heures, ça donne ça. Stéphane habite ici depuis plus de 20 ans.
Ma femme met des bouchons, mais moi non. Mais bon, le dimanche soir, quand c'est fini, ça fait du bien quand même. Et à chaque édition, c'est le même rituel. La route se transforme en circuit. Vincent Bominil est le directeur de course.
Ce circuit, il emprunte une route départementale. Donc avant que les voitures entrent en piste, il y a tout un gros travail pour fixer des rails, pour monter un certain nombre de panneaux qui protègent certaines habitations. Et ce circuit est parfaitement prêt à leur hache.
Et au bord de cette ligne droite des Hunaudières, Mathéo s'installe.
Bah, c'est mon escabeau. C'est une chance que très peu de personnes n'ont, que les 24 passent juste devant.
D'autres transforment leur jardin en camping, comme Gilles qui prévient tout de même.
Alors on n'a pas le droit d'aller au bord, il y a une zone de sécurité de 50 mètres tout autour du circuit. Mais ça ne nous empêche pas de vivre aussi avec le bruit de ces voitures qui sont quand même fantastiques, comme les Corvettes qui font un bruit exceptionnel. C'est aussi le plaisir d'avoir ça.
Et dès dimanche soir, c'est promis, on entendra à nouveau les petits oiseaux.
Merci Frédéric Veil. Je termine avec du basket. La NBA, Toronto, les Toronto Raptors ont été sacrés pour la première fois de leur histoire champions après leur victoire 114-110 face aux Golden State Warriors. C'est la première fois qu'une équipe canadienne remporte le championnat de basket américain.
C'était le match 6, on a suivi ça avec attention en studio.
Vous avez bien sûr suivi ça très attentivement.
Merci beaucoup Jérôme. À tout à l'heure à 7h avec Yves Calvi.
RTL. Le mondial d'Olivia.
Les Bleus sont en huitième de finale de leur mondial. Ça y est, le ticket est validé grâce aux résultats d'autres matchs. Hier soir, nos tricolores sont assurés de finir au moins meilleur troisième des poules. Elles sont donc arrivées sereines en Bretagne, nos championnes hier à Rennes, où elles affronteront lundi à 21h le Nigeria. Avant cela, au programme ce matin, entraînement à Cesson, c'est juste à côté de Rennes, en public et conférence de presse. Bonjour Olivia.
Bonjour.
Vous arpentez donc la France de ce mondial de foot pour nous depuis le début de la compétition et vous avez rencontré quelqu'un tiens, qui va vous pouvoir nous en dire un petit peu plus sur ce week-end breton qui arrive. Racontez-nous.
Eh bien, me baladant de stade en stade, je suis tombée presque par hasard sur Laura Georges, ancienne joueuse emblématique de l'équipe de France. C'était une taulière de l'équipe de France. C'est aussi une ex du PSG. J'ai plein de questions à lui poser en ce qui concerne le quotidien d'une joueuse internationale, puisqu'elle a vécu. On va essayer d'en savoir un petit peu plus avec elle. Du coup, Laura, je vois que tu es en train de signer des autographes en même temps. Cet accueil que tu as là aujourd'hui, c'est juste incroyable. Comment tu vis, toi, ce début de mondial ?
Ah, top. J'adore aller au stade. Je retrouve des yeux d'enfant en fait quand je suis au stade. Je prends énormément de plaisir à venir voir mes coéquipières, mes ex-coéquipières jouer, que ce soit d'équipe de France, que ce soit dans des pays étrangers. C'est énorme.
Toi, l'ex-international qui a vécu ça. Ensuite, les Bleus rejouent lundi. Pendant ce laps de temps, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'on fait quand on est joueuse de l'équipe de France. Comment on se change les idées. On s'entraîne évidemment, mais qu'est-ce qui se passe pendant ce laps de temps?
On passe un moment avec la famille. Il y a toujours un petit moment où on peut échanger avec les proches. Après, il y a ces moments de... pour celles qui ont joué, c'est de la récup. Celles qui n'ont pas joué, c'est de l'entraînement pour se préparer, pour être prête aussi pour jouer ce troisième match.
Tu parlais de rejoindre sa famille, retrouver sa famille. C'est important d'avoir ce soutien-là.
C'est très important puisqu'en fait, on est dans une compétition. On est conditionné pour être en compète, pour être très concentré. Et à un moment, on a besoin aussi d'être avec sa famille, de partager des moments simples.
Et avec ses coéquipiers, se retrouver pour regarder les matchs adverses ou c'est juste dans la chambre avec la roommate?
Alors là, ça dépend des joueuses, mais en général, il y a toujours un espace où les filles aiment regarder ensemble. Peut-être qu'elles font un peu des pronos sur les matchs, je sais pas, mais c'est des moments où en fait, les filles se retrouvent ensemble, discutent et échangent.
Où elle va aller cette équipe de France?
J'espère qu'elle ira jusqu'au bout. Vraiment, vraiment, elle a le potentiel, il y a des filles de qualité. Il y a de l'expérience, il y a de la jeunesse, il y a de l'enthousiasme. Et je crois savoir qu'il y a une très bonne ambiance, donc c'est ça. On ne peut que leur souhaiter d'aller jusqu'au bout. En tout cas, je suis de tout cœur avec elle.
Le soutien inconditionnel de Laura Georges, l'ex-bleue qui arrivera peut-être jusqu'aux oreilles de nos joueuses de l'équipe de France. Et moi, je vous dis bon week-end et à lundi, on sera à Rennes pour le match contre le Nigeria.
Eh bien, à lundi, dans la plus belle ville du monde, Olivia.
RTL Matin.